matière d'éthique sexuelle et de repère. Alors, c'est clair que Jésus dénonce le péché d'adultère. Alors, Moïse avait bien dit dans le septième commandement qui interdisait formellement l'adultère, et dont les coupables dans l'Ancienne Alliance étaient même passibles de la peine capitale. Lévitique chapitre 20, verset 10. Le livre des Proverbes met en garde contre la séduction et le danger de la femme fatale. Paul, dans 1 Corinthiens 6, 18, dit « Celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. » Et pour Jésus, la convoitise, c'est un double problème de cœur. Alors déjà, dans l'Ancien Testament, Exode 20, 17 disait « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à son prochain. » Le principe, c'est que finalement, chacun devait se contenter de ce qu'il avait. Et bien sûr, c'est l'histoire de la chèvre de M. Seguin qui nous le rappelle. L'herbe semble toujours plus verte de l'autre côté de la barrière. Alors quand Jésus dit « quiconque regarde une femme pour la convoiter », il n'est pas question d'un regard accidentel, fortuit ou involontaire, mais plutôt d'un regard persistant, délibéré, avec une pensée, une arrière-pensée très précise. La question, c'est comment apprécier la beauté d'une personne au plan esthétique sans franchir la ligne à ne pas dépasser, au point de convoiter. Et en tout cas, la convoitise, c'est le point de départ. Déjà dans le jardin d'Éden, il est dit que Ève a vu que l'arbre était agréable à la vue, n'est-ce pas? Et dans 1 Jean 2, 15 à 17, Jean dit que un des vecteurs par lequel le monde peut nous attirer, c'est par la convoitise des yeux. Et donc, c'est clair que la maîtrise de soi, c'est tout un programme. Ça, c'est la maîtrise de apprendre à contrôler ce que nous regardons, ce que nous pensons, ce que nous éprouvons, et puis la manière dont nous réagissons à tout ça. Et bien sûr, il faut l'action du Saint-Esprit. Mais Jésus n'interdit pas de regarder une femme. Alors là, ça, c'est du point de vue masculin, mais évidemment que l'inverse est vrai pour une femme qui pourrait convoiter un homme. La question, et Jésus ne dit pas que le coupable, c'est celui qui convoite. Et le problème de fond, c'est la maîtrise de soi. Parce que trop souvent, dans ce genre de situation, on accuse les autres, que l'on rend responsables. Mais, alors déjà, l'Ancien Testament soulignait l'importance de la vie intérieure. Par exemple, Proverbe 16, 30, « Celui qui ferme les yeux pour méditer des desseins pervers » et qui serre les lèvres, a déjà commis le mal. Alors, Jésus, pour Jésus, de même que tout à l'heure on a dit, il est possible d'être un criminel de la pire espèce sans avoir de sang sur les mains ou caché de cadavre dans un placard ou dans le coffre de voiture, de la même manière, il est possible d'avoir transgressé le septième commandement, qui dit « tu ne convoiteras pas d'adultère », sans pour autant se retrouver dans les bras d'une personne qui n'est pas son conjoint légitime et de passer un moment agréable. Et pour Jésus, dès lors que on imagine la chose dans sa tête, eh ben du point de vue de Dieu, c'est comme si on avait consommé physiquement l'acte d'adultère. Donc là encore, les exigences du royaume, elles sont très élevées. Et Jésus prescrit, parce que la question est de savoir comment vivre dans la pureté sexuelle à notre époque où on est assailli de toutes sortes de messages, le remède que Jésus prône, verset 29, « Par conséquent, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. » Si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la au loin. Il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que de voir tout ton corps jeté en enfer. Alors, pour vaincre l'impureté morale, il faut arracher son œil ou couper sa main. Alors, il y a des personnes dont manifestement le zèle a dépassé la sagesse, qui ont cru devoir prendre au pied de la lettre ce propos de Jésus. Je crois savoir, en tant qu'homme, que même si vous m'arrachez un œil, moi, tordu comme je suis, avec mon autre œil, je pourrais encore convoiter. Même si vous me crevez les deux yeux, dans ma tête, je pourrais encore imaginer des choses qui ne sont pas catholiques, pas orthodoxes et encore moins évangéliques, évangéliquement correctes. Donc, manifestement, c'est pas par une pratique, j'allais dire, ascétique. Et dans l'histoire de l'Église, il y a des gens qui se sont littéralement mutilés et qui ont cru devoir, par des exercices ascétiques, dompter les passions de la chair. Mais c'est pas ce que Jésus nous demande. Alors, peut-être que dans la culture juive, l'œil droit, comme la main droite d'ailleurs, représentait le meilleur outil dont l'individu disposait. Il assurait la meilleure vision possible, comme la main droite généralement permet la meilleure habileté manuelle. Bon, probablement la grande majorité des gens sont droitiers, mais on va pas retomber dans les erreurs du passé. On a persécuté les malheureux gauchers pour les obliger à écrire de la main droite. Bon, on est d'accord, il vaut mieux mener un combat pour d'autres causes. Mais le message, il est clair. Du point de vue de Jésus, pour vaincre n'importe quelle tentation, eh bien, il ne faut pas lésiner sur les moyens. Et il ne faut pas hésiter, j'allais dire, à sortir l'artillerie lourde pour vaincre la tentation. Et finalement, c'est l'enjeu de toute créature morale que nous sommes d'apprendre à contrôler nos passions, nos désirs et nos instincts. Les philosophes disaient que la passion, c'est le moteur de nos actions. Et alors c'est vrai, on dit bien que qu'est-ce qui fait aller le monde? Eh bien, les trois grands sujets, c'est la soif du pouvoir, l'argent et puis le plaisir sexuel. Et j'allais dire, sur l'autel de ces trois autels-là, nombre de personnes sacrifient corps et biens au point d'y perdre leur âme. Arracher son œil, couper sa main, c'est une façon imagée de dire qu'il faut fuir la tentation. C'est précisément ce que Joseph a fait dans Genèse 39, quand il a fui les avances de Madame Potiphar. Et on a entendu parler du Monica Gate, mais il y avait déjà le Potiphar Gate au féminin, et déjà dans l'Ancien Testament. Paul dira dans 1 Corinthiens 6, 18, « Fuyez l'inconduite, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. » Alors c'est clair que, moi je pense, dans nos églises, il faut parler de comment vaincre le piège de la pornographie. Et dans nos églises, il y a des gens qui sont, c'est pas parce qu'on est chrétien, qu'on est même dans le ministère, qu'on est immunisé. Ça, c'est un mythe auquel il faut tordre le cou. Mon statut, même ministériel, ne me confère aucune sorte d'immunité contre ce piège, contre ce danger. Et Dieu merci, maintenant dans nos milieux évangéliques, on trouve de la bonne littérature sur pas mal de sujets. Et dans le sujet de la pornographie, je crois que je pense à un livre qui est un témoignage accablant. Je crois que c'est écrit par une épouse dont le mari était littéralement accro de la pornographie, et elle explique comment cela a non seulement, bien sûr, avili son mari, mais brisé leur couple. Et la tentation, c'est une chose que d'être tenté, c'est une chose que de tomber dans le péché, mais c'est une autre chose que d'y rester et de s'y complaire. Et Dieu merci, maintenant je pense que dans nos milieux chrétiens, il ne devrait plus y avoir de sujet tabou. Et si quelqu'un est en lutte, en proie dans ce domaine, eh bien le meilleur conseil à lui donner, c'est de ne pas garder ça pour lui tout seul dans son coin. Et on sait que la pornographie, c'est à grande majorité, bien sûr, c'est un problème masculin, mais cela peut aussi concerner les femmes. En tout cas, il faut chercher de l'aide auprès d'une personne de confiance, compétente, qui saura, je dirais, garder la... c'est une règle de déontologie, respecter la confidentialité, et en tout cas, accompagner dans ce domaine comme dans un autre domaine. Là où on ne... le pire qui peut arriver, c'est, j'ai bien dit, rester seul dans son coin et puis se dépatouiller comme on peut. Mais Dieu merci, on entend des témoignages de personnes qui, par la grâce de Dieu, ont pu surmonter ce problème. Et Jésus dit bien qu'il faut être prêt à payer le prix. Arracher son œil, couper sa main, c'est vraiment une mesure d'exception, mais nécessaire. Faire preuve de discipline, de la discipline pour maîtriser la chair, voilà. Alors, on n'est pas dans une pratique ascétique qui nous donnerait des points sur notre carte et qui nous permettrait de nous en sortir par nos propres moyens. Un dicton anglo-saxon dit ceci en substance, « Semez une pensée et vous récolterez une action. Répétez cette action, vous en ferez une habitude. Pratiquez cette habitude, vous forgerez un caractère, et ce caractère, à son tour, déterminera votre destinée. » Bon, ben, c'est un effet ricochet. Hein. Et c'est clair que le Nouveau Testament nous enseigne qu'il nous faut nous soumettre à la direction de l'esprit pour maîtriser la chair. Je pense à des textes comme Romains 6, 11 à 13, où Paul dit « Considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ, que le péché n'exerce donc plus sa domination sur votre corps mortel pour vous soumettre à ses désirs. Ne mettez pas vos membres à la disposition du péché comme des armes au service du mal, mais puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez vos membres à sa disposition comme des armes au service du bien. » Voilà. Et Jésus a bien dit, on l'a rappelé ce matin, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Et pratiquer, j'allais dire, les jardiniers font tout pour éliminer les mauvaises herbes de leur jardin, eh bien, je dirais, dans le jardin secret de notre vie intérieure, nous devons faire preuve de la même rigueur et de cultiver la pureté intérieure. Et dans 2 Timothée 2:21, Paul dit à Timothée, « Si quelqu'un se garde pur de tout ce dont j'ai parlé, il sera un vase destiné à un noble usage, purifié, utile à son propriétaire, disponible pour toutes sortes d'œuvres bonnes. » Donc, Jésus, là encore, il pose des exigences qui dépassent les exigences de la religion humaine, naturelle, ou même de la culture. Vous imaginez, aujourd'hui, nos tribunaux sont engorgés par de nombreuses affaires. Il n'y a pas si longtemps que ça, encore jusqu'au début des années 1970, l'adultère figurait comme délit dans le code pénal. C'est dire qu'en l'espace de les 50 dernières années, avec l'évolution des mœurs, comme on dit, ou plutôt la libération sexuelle, eh bien, le législateur a dû revoir à la baisse les exigences. Et imaginez si les juges devaient traiter toutes les affaires d'adultère. Bon, oui, ça créerait beaucoup d'emplois, voilà, en tout cas, pour ce qui est du membre du royaume des cieux, c'est certainement un des domaines où la différence entre un chrétien et un non-chrétien doit être évidente, visible à l'œil nu. Il n'y a pas besoin de sortir un microscope électronique pour voir la différence entre un chrétien qui se conduit à hauteur des exigences de la norme du royaume de Dieu et quelqu'un qui est du monde. Alors, tout naturellement, dans les versets qui suivent, c'est intéressant, Jésus vient de parler de l'adultère, et dans les versets 31 à 32, il va plaider pour le maintien du lien conjugal. Il a aussi été dit, si quelqu'un divorce avec sa femme, il doit le lui signifier par une déclaration écrite. Eh bien, moi je vous dis, celui qui divorce avec sa femme, sauf en cas d'immoralité sexuelle, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet lui-même un adultère. Alors là, là encore, les exigences de Jésus vont très loin. Et cette question délicate du divorce que Jésus aborde. Alors, dans Matthieu 19, il y a un passage parallèle plus amplifié qui est consacré à la question. Les pharisiens viennent trouver Jésus et leur dit, alors voilà, puisque Moïse nous a ordonné de donner une lettre de divorce, est-ce qu'on peut divorcer pour n'importe quelle raison ? Voyez tout de suite l'esprit erroné, faussé, qui est derrière la question. Dans Matthieu 19, Jésus se préoccupe de la légitimité du lien conjugal, et de son indissolubilité, puisqu'il va dire, mais n'allez pas désunir ce que Dieu a uni, alors que les scribes et les pharisiens, eux, voulaient savoir pour quelle raison est-il permis de rompre le lien conjugal. Deuxièmement, ce que les pharisiens prennent pour un ordre ou un commandement de donner une lettre de divorce, que Moïse aurait prescrit, Jésus l'appelle concession, dans Matthieu 19, versets 7 et 9. Et il dit, c'est par concession à cause de la faiblesse humaine. En somme, ils font dire à Moïse ce qu'il n'a pas dit. Parce que les petits malins, comme toujours, Moïse avait dans Matthieu 24, 1 à 4, prescrit, c'était l'Éternel qui lui avait demandé de le faire, que si un homme répudiait sa femme, il devait, en bonne et due forme, rédiger une lettre de divorce. Alors, pour quelle raison ? Là, c'est toute la question et tout le monde n'interprète pas. Certaines versions disent s'il y avait quelque chose d'inconvenant ou quelque chose de honteux. Bon, on sait que c'est en rapport avec l'intimité conjugale. Pour être plus précis, tous les avis ne comprennent pas la même chose. Mais en tout cas, il y avait des scribes et des pharisiens qui enseignaient une morale laxiste en disant, bon ben c'est cool, si tu veux te séparer d'avec ta femme, l'essentiel c'est que tu remplisses le bon formulaire, et puis c'est cool pour toi. Et d'ailleurs, du temps de Jésus, il y avait deux courants de pensée chez les rabbins. Il y avait un courant rigoriste, Rabbi Shammai, qui lui donnait une lecture rigoriste de Deutéronome 24. Il considérait que la seule cause recevable pour un divorce était un manquement grave à son devoir conjugal, en rapport avec ce quelque chose d'inconvenant ou d'indécent. À l'opposé de Rabbi Shammai, il y avait Rabbi Hillel. Et Rabbi Hillel, au contraire, lui, il était très laxiste. Alors si la femme, elle avait parlé en mal de sa belle-mère, ou si elle avait fait brûler le potage, ou si le monsieur avait fait la rencontre d'une brunette autrement plus jeunette et plus attirante, eh bien, tout ce qu'il fallait faire, c'était remplir le bon formulaire, et c'était tranquille pour lui. Voyez comment, comme toujours, il y a toujours des gens qui détournent le sens de la loi ou l'intention première qui est derrière la loi. Et les pharisiens considéraient le divorce à la légère, alors que pour Jésus, c'est pas une peccadille, c'est pas un détail. On peut pas banaliser la rupture du lien conjugal. C'est tellement sérieux à ses yeux que même un remariage après un divorce, à l'exception d'un cas bien précis, correspond à un adultère. Alors, dans Matthieu 19, Jésus entrevoit la plausibilité d'un divorce dès lors qu'un des conjoints s'est rendu coupable d'infidélité conjugale. Maintenant, évidemment, dans une optique chrétienne, le pardon, ça existe, mais pas le pardon bon marché comme ça entre deux portes. Comme dit Paul, Paul parle de la pratique des œuvres dignes de la repentance. Et il faut qu'il y ait un changement d'attitude pour que le pardon soit parfaitement validé et acté. Alors, évidemment, l'interprétation des scribes et des pharisiens, Jésus probablement dénonce l'interprétation laxiste qui considérait que dès lors qu'il n'y a pas eu un rapport sexuel entre entre deux personnes qui ne sont pas des conjoints légitimes, on ne peut pas dire qu'il y a eu adultère. Jésus dit, attendez, c'est pas si simple que ça. Sans avoir consommé l'acte, dès lors qu'on l'a fantasmé ou imaginé, eh bien, du point de vue de Dieu, on a consommé le péché d'adultère. Alors, la question dans l'éthique chrétienne, et là je parle dans nos églises, quand on doit gérer des situations, des cas, et Dieu sait si c'est complexe, hein, dans la réalité, c'est pas toujours... la question est de savoir comment... alors, l'enseignement sur le mariage, je crois qu'en tant qu'évangélique, on est tous d'accord pour reconnaître que l'institution du mariage, on la trouve dans Genèse 2. Hein, cette institution, elle est d'ordre créationnel, c'est-à-dire Dieu a créé l'homme et la femme à son image, et il a voulu qu'ils s'engagent en assumant les conséquences, en assumant leurs responsabilités, je veux dire, qu'ils s'engagent par le lien du mariage. Et d'ailleurs, le lien du mariage, dans l'Ancien Testament, a servi d'image ou d'illustration entre l'alliance que Dieu traite avec son peuple d'Israël. Et il est intéressant de relever, notamment dans Malachie 2, que Dieu considère le mariage entre un homme et une femme comme une alliance, au même titre qu'il a conclu alliance avec son peuple, Israël, qui a souvent été infidèle, et il a fallu renouveler le contrat d'alliance. Quand Dieu conclut une alliance, eh bien, il y a le signe d'une alliance. Dieu a conclu alliance avec Abraham. Le signe de l'alliance, c'était la circoncision. Avec Moïse. Le signe de l'alliance, c'était le don de la loi ou le sabbat. Il a conclu alliance avec David. Le signe de l'alliance, c'était... Alors, j'ai oublié, déjà avec Noé, le signe de l'alliance, c'était l'arc-en-ciel. Avec David, le signe de l'alliance, c'était le temple, mais un temple spirituel. Et bien sûr, un descendant, le nouveau David. Et puis, dans la nouvelle alliance, le signe de l'alliance, c'est Jésus, ce que nous commémorons quand nous célébrons la scène. Et on peut dire que dans le mariage voulu par Dieu, le signe de l'alliance, c'est l'intimité sexuelle. Et donc, du point de vue de Dieu, dès lors qu'il y a une relation sexuelle, il y a une alliance, à ses yeux indissoluble, entre un homme et une femme. Voilà la logique divine, je dirais. Et Malachie, au chapitre 2, dénonce la banalisation de la rupture du lien conjugal avec la généralisation du divorce. C'est pas nouveau, hein. Mais c'est pas légal. Et du point de vue de Dieu, c'était une violation du contrat, de l'alliance. Donc, alors Jésus, dans Matthieu 19, nous parle de... Il dit non au divorce, sauf la clause d'exception en cas d'immoralité d'un des conjoints qui a rompu le lien conjugal. Mais là encore, dans une optique chrétienne, on peut considérer que le pardon ou la restauration est possible, moyennant, j'allais dire la pratique des œuvres dignes de la repentance. Maintenant, Jésus, là où les évangéliques ne sont pas tous d'accord entre eux, c'est que Jésus n'aborde pas clairement la question du remariage. Alors, il dit pour autant qu'une personne divorcée qui va se remarier, non seulement elle est adultère vis-à-vis du premier conjoint, mais elle va inciter son deuxième conjoint à être adultère. Donc c'est une réaction en chaîne problématique. Mais Jésus n'entrevoit pas les possibilités du remariage. Alors Paul va amplifier, on va dire, d'après une déclaration du Seigneur, dans 1 Corinthiens 7, où Paul dira que une personne veuve, ou même une personne dont le conjoint non croyant a pris l'initiative de se séparer, eh bien, l'initiative de la séparation, elle doit venir de la part de la partie non croyante, c'est ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 7, et si tel est le cas, Paul, on le sent bien, ne conseille pas spécialement le remariage. Pour autant, il le concède, s'il y a remariage, ça doit être dans le Seigneur, avec une personne née de nouveau, croyante. Voilà. Alors, concrètement, pratiquement, il y a quatre faces. Alors, le problème, c'est que dans nos églises, trop de personnes associent divorce, remariage. Et dans le contexte, Jésus a parlé de l'adultère, et il y a nombre de divorces qui sont en rapport avec une faute commise, une question d'adultère. Mais le problème, c'est que souvent, la personne qui a commis l'adultère et qui pense au divorce, elle a déjà en vue une autre opportunité sur le marché, une autre option. Alors, dans l'Écriture, ce sont des choses complètement séparées. Le divorce est une chose. Le remariage en est une autre. Et d'un point de vue pastoral, dans nos communautés, les responsables spirituels sont amenés à conseiller des personnes qui sont passées par ce traumatisme du divorce pour X ou Y raison. Et il n'est pas question d'infliger un jugement de valeur. Mais moi, je crois que les responsables spirituels ont beaucoup besoin de la sagesse d'en haut. Alors, grosso modo, il y a quatre façons de considérer les choses. Premièrement, certains vous diront, le divorce et le remariage ne sont permis sous aucun prétexte. Ça, c'est la volonté absolue de Dieu, et c'est l'idéal, c'est le plan A de Dieu. Et je pense qu'on est tous d'accord que c'est le meilleur cas dans le meilleur des mondes. Deuxième possibilité, le divorce et le remariage sont permis pour n'importe quel motif et dans n'importe quelle situation. Alors là, vous allez trouver des églises entre guillemets qui ont une position plutôt laxiste. Troisième catégorie, vous avez des églises ou des milieux qui vous diront le divorce est permis sous certaines conditions et dans certaines circonstances. Par contre, pas le remariage. Je dois dire, sur ce plan-là, dans une des églises où moi j'ai fréquenté, on avait une sœur dont le mari était alcoolique, non chrétien, qui l'a frappé, et il arrivait qu'on récupère en catastrophe l'épouse avec ses enfants en pleine nuit chez nous parce que le mari avait bu, il était violent. Et nous, on était amené à lui dire, il faut une séparation avec ton mari parce qu'il doit comprendre qu'une femme, on la respecte et on ne la maltraite pas. Alors la sœur se sentait coupable parce que, bien sûr, l'Église priait pour la conversion du mari. Mais plus on priait pour la conversion du mari, plus il semble que le mari était imbuvable et vraiment était infect avec sa femme. Nous, on lui a dit, le seul langage que ton mari peut comprendre, c'est une séparation. On n'a pas dit divorce, mais une séparation de corps. Parce que dès lors que l'intégrité mentale, morale, physique, sexuelle d'un conjoint ou d'un enfant est en jeu, pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour comprendre qu'il faut une séparation. Il faut porter assistance à personne en danger, c'est un devoir. Alors cette sœur, elle a cru devoir rester auprès de son mari, mais le drame c'est que son mari l'a assassinée. Donc, il y a quand même des situations, alors bien sûr, assez extrêmes, mais ça peut très mal se terminer. Bon, et la quatrième cas de figure, c'est le divorce et le remariage sont permis sous certaines conditions et dans certaines circonstances. Moi, j'ai connu un cas, deux jeunes qui se marient à l'âge de 22 ans. Deux enfants de famille chrétienne, dont les parents très engagés, anciens, dans leur église, etc. Après 2 ans de mariage, l'épouse se rend compte que son mari, un, est homosexuel, et deux, accro à la pornographie. Mais le drame, c'est que il ne souhaitait pas changer d'attitude. Là, le couple a divorcé. Alors, vous retrouvez une personne qui a 25, 26 ans. Alors, bien sûr, la méthode pure et dure, c'est de dire, eh bien, sœur, tenez bon, priez que Jésus revienne bientôt, ou qu'il vous aide à tenir jusqu'à vos 95 ans. Mais voilà. Donc, d'un point de vue pastoral, vous comprenez bien que toutes les situations ne sont pas comparables. Et du haut de l'estrade, urbi et orbi, et ex cathedra, on ne peut pas régler en 2 minutes 30, une fois pour toutes, ces questions de divorce et de remariage. Et je peux vous dire que ce genre de questions, ça donne des cheveux blancs aux responsables spirituels des communautés, et il y en a qui en perdent peut-être même leurs cheveux, parce que c'est torboyau, hein, et puis c'est pas aussi simple que ça peut en avoir l'air. Et les situations sont complexes. Et je crois que les responsables spirituels ont besoin de discernement, de sagesse d'en haut pour dire, bon ben voilà, nous, dans ton cas, voilà ce que nous comprenons que la Bible enseigne. Maintenant, on te met devant tes responsabilités et c'est à toi de prendre ta décision. Mais voilà jusqu'où nous, on peut aller. Et il y a des choses qui ne pourront pas être possibles, etc. Donc, vous imaginez la complexité du sujet. Et ce qui est frustrant, c'est si Jésus avait dit, bon ben, dans certains cas, X, Y, Z, le remariage, c'est possible. Bon, moi j'observe que les hommes de Dieu, plus avancent avec le Seigneur, et ils ne font aucune concession sur la sainteté, plus ils sont miséricordieux. Mais c'est pas la grâce à bon marché. Parce que vous avez compris que l'éthique chrétienne, c'est toujours entre les deux extrêmes que sont le laxisme de Romains 6, 1, péchons afin que la grâce abonde, et là le laxisme c'est l'abus de la grâce, mais à l'autre extrême il y a l'abus de la loi, le légalisme. Et je crois que l'accompagnement pastoral dans ce genre de questions extrêmement sensibles demande beaucoup de discernement, de nuances. Et puis, il faut l'admettre, d'une église à une autre, aussi évangélique puisse-t-elle être, et j'ose même dire, membre de la même union d'église, sur certains points, elle ne mettra pas le curseur au même endroit. Et évidemment, chacun doit agir avec sa conscience, avec ce qu'il comprend de la parole de Dieu, se garder de jeter l'anathème ou de déclencher une fatwa à quelqu'un qui penserait autrement sur un point, mais il faut être sensible, hein. Et vous l'avez compris, il faut jouer fin. Bon. Alors, selon Jésus, alors c'est vrai que Jésus dit, celui qui divorce avec sa femme, sauf en cas d'immoralité sexuelle, l'expose à devenir adultère. Bon. Dans l'éthique conjugale, comment trouver le juste milieu entre la loi et la grâce, entre le légalisme et le laxisme? Et là, je vous dis, dans certaines questions sensibles, tout le monde ne mettra pas le curseur au même endroit. Bon, on n'a pas le droit, on n'a pas le temps d'entrer beaucoup plus dans les... Mais c'est clair que dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, il doit y avoir une différence entre une éthique chrétienne et l'éthique du monde. Alors, l'antithèse suivante, Matthieu 5, 33. Vous avez encore appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne romperas pas ton serment. Ce que tu as promis avec serment devant le Seigneur, tu l'accompliras. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas faire de serment du tout. Ne dites pas « je le jure par le ciel », car le ciel, c'est le trône de Dieu. Ou « j'en prends la terre à témoin », car elle est l'escabeau où Dieu pose ses pieds. Ou « je le jure par Jérusalem », car elle est la ville de Dieu, le grand roi. Ne dites pas davantage « je le jure sur ma tête ». Bon, il y en a qui le jurent sur la tête de leur mère, les pauvres mamans, hein. Je le jure sur ma tête, car tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Dites simplement oui si c'est oui, non si c'est non. Tous les serments qu'on y ajoute viennent du diable. Aïe, aïe, aïe. Alors là, ça met la balle au centre, hein. Et ça met les pendules à l'heure. Parce que la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que les gens se sentent obligés d'en rajouter en disant je le jure sur la tête de ma mère ou de la belle-mère. Bon, je vois que Jésus aime les mères et les belles-mères, et nous aussi, et nous aussi. Bon, en tout cas, dans l'Ancien Testament, les serments, c'est à consommer avec modération. On n'a pas le temps de voir le détail, mais c'était interdit d'utiliser le nom de l'Éternel pour tromper. Exode 20, verset 7. Lévitique 19, 12, condamnait les faux serments prononcés par son nom. Ça revenait à profaner le nom de l'Éternel. Deutéronome 23, verset 21-23, recommandait de s'abstenir de prononcer un vœu, parce qu'un serment, c'est contraignant. Alors, Nombre 23-19 nous dit « Dieu n'est pas homme pour mentir, ni humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole? Et n'accomplit-il pas ce qu'il a déclaré ?» Alors, Dieu s'engage par serment avec Abraham, par exemple. « Je le jure !» Alors, il y a une différence. Dieu, il est crédible. Il n'a pas besoin d'en rajouter pour qu'on puisse lui accorder notre confiance. Pour ainsi dire, c'est un anthropomorphisme. Dieu se met à notre échelle, entre dans notre échelle et quelqu'un qui jure. Bon, et au Moyen-Orient, dans la culture du Moyen-Orient contemporain au temps de Jésus et même bien avant, du temps d'Abraham déjà, c'était des cultures orales. Et la parole, ça valait encore son pesant de lettres. Aujourd'hui, bien sûr, la parole, 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 encore des mots, toujours des mots, chantait Dalida. Hein? Vous voyez, je connais les classiques. Ou vos classiques, je ne sais pas. Mais la monnaie, on l'a dévaluée autrefois. Et la parole, aujourd'hui, ça n'engage, bon, on dit bien que les promesses électorales n'engagent que ceux qui les écoutent, hein, pas ceux qui les prononcent. Donc, à ce compte-là, alors, l'Éternel a prêté serment, oui, il a mis son honneur en jeu, mais la grande différence, c'est que lui, il est crédible, il est fiable, il est fidèle. Bon, alors, ça, Jésus n'est pas en train de dire que si on est appelé à témoigner à la barre du tribunal, un chrétien n'a pas le droit de dire « je jure de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité ». Tout comme quand on se dit « oui » devant Monsieur le maire, quelque part, on doit savoir à quoi on a dit « oui ». Il y a un bon livre chez BLF que vous trouverez à la librairie Onésime. Savez-vous à quoi vous avez dit « oui » Je ne sais plus trop comment il s'appelle, mais l'idée, c'est, je crois que c'est écrit par un couple. Et le couple, il écrit que le mariage, c'est un moyen de grâce que Dieu offre au conjoint comme accélérateur de sanctification mutuelle. Ah, ça c'est beau, hein? Rien que ça, bon, ça se mange pas, mais ça vous donne envie de l'acheter. Donc vous irez voir votre libraire. Il est disponible. Et aujourd'hui, peut-être, il y aura peut-être 5%, je sais pas. Non, mais là, je vois ceux qui m'écoutent, hein, j'ai mes trucs, hein. Bon, on a dit que les serments à consommer avec modération, et Jésus dit, halte à l'arnaque. Non, mais faut arrêter de se la jouer. Jésus est clair, dit, non, mais attends, si tu penses oui, dis oui. Si tu penses non, dis non. Ce qu'on y ajoute, ça vient du malin. Alors moi, les premières fois où je suis allé aux Antilles, Alors, vous savez, aux Antilles, là-bas, c'est formidable parce que même le pire des mécréants, s'il vous dit à demain, si Dieu veut, si Dieu veut, si Dieu veut. Hein? Et puis, parfois, on vous dit, bon, ben, demain, à 14h, à 14h. Bon, dans mon église, on a, où il y avait beaucoup de bien-aimés, de, je vous dirai pas quel pays. Mais enfin, vous savez, c'est ce pays, c'est ces pays où ils vous disent, vous les blancs, vous avez l'heure, mais nous on a le temps, nous, hein. Vous avez la montre, mais nous on a le temps. On était invité à un mariage, et sur la convocation, c'était écrit à 19h précise pour le repas. Et avec ma femme, on est arrivé à 18h50. Et j'ai dit à ma femme, on va se taper la honte de notre vie, nous allons être les derniers. Eh bien, nous étions les premiers. Et on a même dû donner un coup de main en cuisine parce qu'ils étaient un peu à la bourre. Les mariés sont arrivés à 23h30. Et quand on est parti à 4h du matin, il y a encore des invités qui arrivaient. Cool Raoul, relax Max, à l'aise Blaise, tranquille Emile. Doucement le matin et pas trop vite le soir. Bon ben nous, on avait pris comme argent comptant 19h précise. Bon. Vous savez, on fait facilement des promesses. Il y avait une petite fille qui disait, oui, les parents, ils nous promettent quelque chose, puis après ils disent, mais oui, mais il y avait des conditions, mais ils n'avaient pas dit les conditions, mais nous on avait cru que... Ah oui. Jésus dit, si tu penses oui, tu dis oui. Si tu penses non, tu dis non. Non, mais vous vous rendez compte, si on mettait ça en pratique, rien que dans la ville de Dunkerque, mais ce serait la catastrophe nationale, internationale. Vous vous rendez compte? Si tout le monde commençait à être clean dans tous les domaines, mais... Pardon, mais vraiment... Ah oui, oui, ça... Bon, enfin... Donc, Jésus dit que le membre du royaume, il se manifeste à la manière dont il communique. Et vous savez, comme moi, aujourd'hui, la communication, c'est un grand sujet, hein, c'est un grand domaine. Alors, il y a ce qu'on dit, la manière dont on le dit, etc. Ma femme, parfois, me reproche, et elle a raison. Elle me reproche pas ce que je lui dis, mais la manière dont je lui dis. Vous savez, nos femmes, elles ont des capteurs que nous, les hommes... On n'a pas les mêmes antennes, on n'est pas câblé de la même manière. Et on peut avoir raison dans ce qu'on dit, mais la manière dont on le dit peut nous donner tort. Aïe, aïe, aïe. Priez pour moi, hein, parce que j'ai encore du chemin à faire. Et ma femme, elle ressent des choses que moi, je... Ben non. Bon, bref, enfin, priez pour moi et pour ma femme aussi, parce que c'est pas toujours facile. Hein. Pour quelle raison avons-nous tant de mal à dire un oui, si c'est oui ou un non, franc et massif? Ben, si c'est oui, si c'est non, ça nous engage, hein. Il faut assumer le service après-vente. Hein. Ah ben oui. Bon, aïe aïe aïe. Vous avez appris qu'il était dit œil pour œil, dent pour dent. Bien moi je vous dis, ne résistez pas à celui qui vous veut du mal, au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, ne l'empêche pas de prendre aussi ton vêtement. Et si quelqu'un te réquisitionne pour porter un fardeau sur 1 kilomètre, porte-le sur 2 kilomètres avec lui. Donne à celui qui te demande, ne tourne pas le dos à celui qui veut t'emprunter. Aïe, aïe, aïe. Non à la vengeance personnelle. Alors Jésus n'est pas en train de dire, bon ben voilà, un bon chrétien, il va dire dimanche au culte, voilà. Voilà les clés de ma BMW, si quelqu'un la veut, je lui donne, il peut partir avec, moi je vais rentrer à pied. Non. Jésus nous dit que... Alors d'abord, il y a le principe œil pour œil, dent pour dent. Et le problème, ça c'était dans l'Ancien Testament, mais c'était à la barre du tribunal. Le problème, c'est que les scribes et les pharisiens avaient appliqué ça dans le cadre des relations interpersonnelles. Ça veut dire, tu m'as fait ça, eh bien moi je vais te rendre la monnaie de ta pièce. Alors là, vous ouvrez la porte à la guerre civile. Et chacun va avoir son fusil et va tirer sur ses voisins comme on va abattre un lapin dans une partie de chasse. Alors Jésus dit qu'il ne faut pas résister aux méchants. Bon, les inconvertis vous rappelleront le sermon sur la montagne. Ah, tu es chrétien, on t'a frappé sur la joue droite. Alors, voyons, tu vas tendre l'autre joue. Bon, Jésus dit ici que finalement, le membre du royaume, il doit être prêt à s'asseoir sur son propre droit. Et doit renoncer à son sentiment de dignité personnelle. Jésus a déjà dit que, en tant que membre du royaume, on peut être persécuté. Renoncer à son droit. Accepter la réquisition. Ben, le contexte, la Palestine, Israël était occupé par l'occupant romain. Et sous l'occupation, un soldat peut exiger n'importe quoi de la population qui est envahie. Et Jésus dit, si le soldat romain te demande de porter sa valise sur 1 kilomètre, sois disposé à le faire sur 2 kilomètres sans broncher. Waouh, c'est du lourd. Je vous ai parlé ce matin de ce jeune chrétien qui, à sa première permission, avait dit « Ah non, merci pour vos prières, personne ne s'est rendu compte, je suis chrétien ». J'ai entendu une autre histoire d'un chrétien au service militaire. Dans une chambrée de 10 soldats, il avait l'habitude de se mettre à genoux au pied de son lit pour prier avant le soir. Et bien sûr, les autres collègues dans la chambre, ils se moquaient de lui. Et un jour, il y en a qui avait une paire de rangers bien avec plein de terre, il lui a balancé sur la tête. Et le chrétien, sans rien dire, il a terminé sa prière, il s'est relevé, il a pris la paire de rangers, il l'a nettoyée et il l'a remise droit au pied du lit de la personne qui lui a envoyé la paire de rangers. Il est allé se recoucher. Ben, je peux vous dire que ce jour-là, waouh, il a pris du galon, il n'a jamais eu ce genre de problème, et là, il a gagné son autorité et il a été respecté. Ben, je crois que c'est un peu dans l'esprit de... Il y a des gens, Léon Tolstoï par exemple, qui disaient que oui, la police, c'est pas chrétien. Gandhi, qui apprenait le pacifisme, mais à outrance, au point de dire, non, un État n'a pas besoin de policiers. Ben excusez-moi, mais moi j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour les forces de l'ordre qui font le sale boulot que moi je n'aurais pas envie de faire. Bon, on peut penser ce qu'on veut, et comme toujours, personne n'a 10 sur 10 dans toutes les matières, mais quand il s'agit de pourchasser des criminels ou d'interpeller des gens toxiques et hyper dangereux, Dieu merci, il faut limiter la casse. Et il faut... Donc... voilà. Alors, le problème des scribes et des pharisiens, c'est le principe œil pour œil, dent pour dent, qui était à la barre du tribunal et l'apanage du législateur qui faisait respecter la loi, il l'avait transposé dans le cadre des relations personnelles. Et donc, chacun pouvait faire sa propre justice. Donc là, il y avait un décalage qui n'était pas recevable. Mais Jésus dit, un membre du royaume, il doit être prêt à renoncer à la vengeance personnelle, il doit renoncer à dire « j'ai le droit à », il doit renoncer à ce droit, et même à l'instinct de propriété. Ça va loin, hein? Aimer jusqu'où? Alors Jésus va aller plus loin et donner à celui qui a besoin. Si quelqu'un veut prendre ta chemise, sois prêt à en donner deux paires. Quelle différence existe-t-il entre le régime de la justice et celui de la miséricorde? Finalement, c'est ça la question. Tendre l'autre joue, dans quelle situation concrète et jusqu'où? Alors, on est d'accord, tendre l'autre joue, il y a des limites. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette sœur en Christ que son mari a assassinée. Je ne pense pas que Dieu nous demande d'aller jusque-là. Et il y a des situations où il faut savoir dire stop. Quelqu'un a dit, bon ne s'écrit pas avec un C. Et être chrétien, oui, paillasson, non. Et il faut du discernement pour savoir, l'apôtre Paul a fait usage de son titre de citoyen romain quand il en a appelé à César. Mais ce n'était pas pour défendre son intérêt personnel, mais Paul a flairé le bon filon. Ah ouais, c'est cool, en tant que citoyen romain, la loi m'autorise à en appeler à César pour rendre témoignage à César. Ben, mais voyez un peu le personnage, hein. Et Paul a fait valoir son droit. Dans ce cas-là, il n'a pas renoncé à son droit. Et là, il faut du discernement. Et puis, la dernière, alors là, c'est Pompon, verset 43. Vous avez appris qu'il était dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mon œil. Et tu haïras ton ennemi. Et là, Jésus prend la main dans le sac, en flagrant délit, les pharisiens et les scribes. Dans l'Ancien Testament, oui, il était dit, tu aimeras ton prochain. Tu haïras ton ennemi, jamais de la vie. Dans le Deutéronome, dans la Torah, non mais c'est touchant. Dieu est le premier défenseur des droits de l'homme et des droits des animaux, on n'y pense pas toujours. Mais si un Israélite voyait l'âne ou le bœuf de son prochain divaguer dans la nature, quand bien même il n'aurait aucune pitié pour son voisin avec qui il est embrouillé, pitié pour l'âne, pitié pour le bœuf, ramène l'âne égaré à son propriétaire. Mais moi je trouve c'est croustillant. Dieu se soucie de l'âne égaré de mon ennemi. Et je dois le ramener à son propriétaire. Donc, tu haïras ton ennemi, ça, faux. Usage de faux. Abus de biens spirituels. En théologie, on parle de l'exégèse. Ça, c'est de l'exégèse. L'exégèse, c'est faire ressortir du texte biblique ce qui s'y trouve. L'exégèse, c'est le contraire. C'est mettre dans le texte biblique ce qui n'y est pas. Et là, les scribes et les pharisiens, Jésus les prend dans le collimateur. Verset 44, « Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père Céleste. Car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons. Et il accorde sa pluie à ceux qui sont justes comme aux injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes ne l'en font-ils pas autant? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? » En somme, la question qui tue et que Jésus pose ici, c'est qu'est-ce que le chrétien est prêt à faire de plus et de mieux que le non-chrétien? Les non-chrétiens, ben, tiens, je te trouve sympa, je t'invite à manger chez moi, mais tu me renvoies à l'ascenseur, hein. Et il y a des gens, c'est pas des parfaits philanthropes, c'est pas écrit Mère Teresa ici, hein. Et donc, ils vous font ci, mais ils attendent que vous leur fassiez ça. Jésus dit, mais invitez des gens dont vous savez pertinemment qu'ils ne pourront pas vous rendre l'appareil. Et puis regardez Dieu, il aime les bons comme les méchants. Il fait briller son soleil sur tout le monde. Et parfois même, les légumes dans le jardin du voisin, qui est le dernier des mécréants, ça pousse mieux que dans le jardin des chrétiens. Alors voyez que Dieu ne fait pas de la discrimination, et donc le membre du royaume, il doit faire de même. Voilà. Je crois que depuis que quelqu'un est entré dans la salle, ça marche plus. Ah non. Les quatre impératifs. Non, pardonnez-moi, hein, c'est mon humour, mais... Les quatre impératifs de l'amour du prochain. Aimer ses ennemis, prier pour ses persécuteurs, aimer sans discrimination et faire mieux que les païens. Et c'est ça la question qui tue. Nous qui nous disons chrétiens, devant telle ou telle situation, qu'est-ce que nous faisons de plus et de mieux? Et donc, comme on a dit, on doit inviter des gens qui ne nous pourront pas nous rendre l'appareil et aller au-delà de ce qu'il est humainement parlant attendu des autres. Et enfin, alors, peut-on inclure des limites dans le champ du prochain à aimer? Autrement dit, bon, ben, il y en a qui ont le look, donc qui font partie dans la bonne colonne, les autres. En quoi les exigences de l'éthique chrétienne sont-elles supérieures au barème des gens du monde et à l'enseignement des pharisiens? Eux, les pharisiens, ils avaient dit, il est écrit, tu aimeras ton prochain, tu haïras tes ennemis. Eh ben non, parce que le chrétien doit aimer ses ennemis. Il ne devrait pas avoir des ennemis, mais il y a des gens qui le prennent pour cible. Donc, et puis enfin, alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Et là, la messe est dite, quand on a dit ça, on a tout dit. Votre Père Céleste est parfait, soyez donc parfait comme lui. Mais il n'y a plus qu'à. Et là, oui, et je vous ai bien dit au départ, l'enseignement est gratuit, mais ce qui coûte cher, c'est la mise en pratique. Alors là encore, on a dit non au laxisme, non au légalisme. Et là, on peut dire non au perfectionnisme. Regardez-moi, un bon chrétien, un vrai, un pur, un dur, comme moi, il ne pêche plus jamais. Prenez-moi vite en photo. Alors, il y a 1 Jean 3:9-10 qui dit « Celui qui est né de Dieu ne pêche plus ». Ça ne veut pas dire qu'il a 10/10 dans toutes les matières. toute façon, si on lui demande, c'est quand la dernière fois que tu as dû demander pardon à Dieu pour tes péchés, ou tu as péché, peut-être que lui ne s'en souvient pas. Mais si vous demandez à sa femme, elle aura la réponse. Bon, l'inverse peut être vrai aussi, hein. Mais Jean dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous sommes menteurs. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. 1 Jean 2:1, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste qui plaide notre cause. Et en même temps, il dit, celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Donc, oui, non au perfectionnisme pur et dur, oui au réalisme. Il y a un juste milieu, là encore, comme tout à l'heure on disait, entre la loi et la grâce. Bon, ben voilà, il n'y a plus qu'à maintenant. Alors je suis désolé, j'ai tellement été bavard que je ne vous ai pas donné le micro pour poser des questions. Mais je suis sur Dunkerque jusqu'à lundi à 13h56. Donc, j'assume. Bon, si c'est la nuit, laissez un message sur mon répondeur. Mais je rends la parole à Jean. Et donc, demain, j'allais dire si Dieu veut, ou je dirais Dieu voulant, on continuera sur Matthieu 6 et Matthieu 7.